Recommençons à nouveau à partir de Rousseau. Le mal, soulignait Rousseau, vient de la permanence de l'exécutif et de l'intermittence du législatif. Il décrivait là la situation des monarchies de son temps. À un moment où la durée des sessions parlementaires était réduite, pour un pays comme l'Angleterre, et où les États généraux ou leurs équivalents ne se réunissaient qu'à intervalles lointains ailleurs, pour ne rien dire du cas français où les derniers remontaient à 1614, alors que l'exécutif, pouvoir royal, était permanent. Et Rousseau appelait donc simultanément de ses voeux une activité plus continue du législatif et un changement régulier de l'exécutif, c'est-à-dire à inverser les rythmes, d'avoir un exécutif qui serait du court terme et un législatif qui serait plus du moyen terme. Et il commentait, en faisant cette proposition, « Un corps qui agit toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte. Bientôt, il ne rend plus compte que des principaux. Et enfin, il vient à bout de n'en rendre aucun. » Elle est écrite de la Montagne, lettre 7. C'était reconnaître que la nature des institutions est fortement déterminée par cette variable d'exercice qu'est le temps. Examinons donc quelques grandes dimensions de la question, en commençant par celle de la durée des mandats. Et je voudrais passer, même rapidement en revue, un certain nombre de dispositifs institutionnels et de rappeler les variations qu'il y a eu sur les régimes de temporalité dans lesquels ils s'inscrivaient. La durée des mandats, d'abord. L'histoire est longue des débats et des appréciations sur le sujet. Machiavel écrivait ainsi dans son discours sur la première décade de Tite-Live, « Quand on confie une autorité sans borne pour un temps très long, et il précisait « j'appelle ainsi un an et plus », toujours, elle sera dangereuse. » Dire qu'un mandat d'un an est déjà trop long sonne effectivement curieusement à nos oreilles. Mais si l'on regarde les institutions du temps des révolutions américaines et françaises, on constate notamment que les mandats parlementaires étaient une durée beaucoup plus courte qu'aujourd'hui. Commençons avec le cas français. La Constitution de 1791 prévoit un mandat de 2 ans pour l'Assemblée nationale. Celle de 1793 réduit à 1 an le mandat du corps législatif, qui passera ensuite à 3 ans en an 3, avec un renouvellement par tiers. Et pour donner d'autres points de repère, on peut rappeler que le président de l'Assemblée constituante changeait toutes les semaines et qu'un décret de la Convention du 7 Fructidor en 2, 24 août 1794, qui réorganisait les comités de salut public et de sûreté générale, prévoyait qu'il se renouvelle chaque mois par quart, en limitant strictement les conditions de réélection, ce qui ne sera pas véritablement suivi. Effet significatif, les mandats parlementaires seront donc notablement allongés en l'an 3, je l'ai cité, 3 ans, puis surtout en l'an 8. En l'an 8, les mandats s'allongent subitement puisque les membres du tribunal et du corps législatif sont élus pour 5 ans, avec toujours un système de renouvellement annuel, système sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Tandis que les membres du Sénat étaient quant à eux considérés comme inamovibles et à vie. La monarchie parlementaire, restauration monarchie de juillet, en resta ensuite à ce terme de 5 ans pour la Chambre des députés, tandis que la Constitution de 1848, elle, reviendra à un mandat de 3 ans, avec renouvellement intégral. C'est très important, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Sous le Second Empire, les mandats étaient à nouveau allongés, à 6 ans pour le corps législatif, tandis que les sénateurs étaient, eux, inamovibles et à vie. Il est frappant de constater sur cette base que ces variations de la durée du mandat, la durée des mandats, semblent être parfaitement indexées sur le caractère plus ou moins démocratique des régimes. De Gaulle parlait des électeurs comme des députés d'un jour. On voit là bien qu'il l'était plus rarement à certaines périodes qu'à d'autres. Et si l'on se tourne vers le cas américain, c'est un terme de 2 ans qui était retenu pour la Chambre des représentants et qui existe toujours. Les représentants des États-Unis sont élus tous les 2 ans. Et cette position n'a jamais été amendée et n'a jamais fait l'objet de demandes d'amendement. Cette disposition d'un vote pour 2 ans un mandat de 2 ans, résultait d'ailleurs d'un compromis. Le terme d'un an avait de très nombreux partisans au moment de la Révolution américaine. Et d'ailleurs, 12 des 13 constitutions des États avaient adopté le mandat d'un an dans leur législature. Seule faisait exception la Caroline du Sud. Ce mandat d'un an, donc, il était pour les constituants et même dans la population véritablement une référence. C'est ce qu'il y avait dans les constitutions des États. Et il y avait l'idée qui était très répandue à l'époque que le mandat d'un an correspondait à un usage immémorial en Angleterre. Ce qui était d'ailleurs une confusion, parce qu'on avait confondu dans la présentation populaire des choses l'idée de session annuelle et celle d'élection annuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, disons, un an avait un prestige très grand. Et la masse des Américains était très attachée à ce que les élections soient fréquentes. Et il y avait un slogan très populaire à l'époque qui disait « Là où finissent les élections annuelles, là commence la tyrannie ». Donc c'était clair et net. Parce qu'on y voyait un moyen d'obliger les représentants à rester à l'écoute des citoyens. Mais Madison, comme Hamilton, batailleront ferme pour s'opposer à ce mandat d'un an. Et Madison, notamment, y consacrera 2 articles du Fédéraliste, numéro 52 et 53, pour développer cet argument. Lui-même s'affirmait partisan d'élections triennales. Et il ouvrira la porte du compromis en acceptant le rythme biennal. Mais il fut, en revanche, donc les 2 ans, c'est déjà un compromis. C'est déjà un compromis à l'intérieur, pourrait-on dire, de l'Assemblée de Philadelphie, mais ça n'était pas, l'opinion moyenne américaine était vraiment pour un an sans conteste à ce moment-là. Mais il fut en revanche décidé que les sénateurs, eux, seraient nommés pour 6 ans, avec un système, là aussi sur lequel je reviendrai, de renouvellement par tiers tous les 2 ans. C'était ainsi directement consacré la combinaison américaine d'articulation d'un système d'aristocratie élective, le Sénat, avec des formes démocratiques, la Chambre des représentants. Il faut d'ailleurs rappeler, en outre, c'est le 17e amendement à la Constitution fédérale, amendement de 1912, que c'est seulement à partir de 1912 que les sénateurs seront élus au suffrage universel. Avant 1912, les sénateurs étaient nommés par les législatures des États. Et après 1912, ils seront nommés au suffrage universel. Et le Sénat avait été présenté explicitement par Madison comme un frein salutaire. Une institution, je le cite, qui est la connaissance des moyens qui permettront d'atteindre le bonheur du peuple, et pas simplement le souci du peuple. Donc une institution qui incarne la connaissance des moyens pour atteindre le bonheur du peuple est opposée à la Chambre des représentants qui aurait le souci du peuple. Vous vous rappellerez que la semaine dernière, j'avais parlé des 2 épistémologies de l'intérêt général. Et là, il est explicitement, la chose est explicite, avec ce terme de connaissance opposé à celui de souci. Se contrebalançait enfin, aux yeux de Madison, le changement continuel, disait-il, des membres de la Chambre des représentants qui, avec un Sénat plus ralenti, permettait de déterminer ce qu'on peut appeler une économie prudentielle des rythmes politiques. Donc, voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur le fait qu'il y a eu des débats permanents sur la longueur des mandats parlementaires. Il y a eu aussi beaucoup de débats sur la limitation des mandats. Les mandats doivent-ils être limités pour les mandats parlementaires? Et le pays où il y a eu le plus de discussions sur ce point-là a été les États-Unis. Ce problème de ce qu'on appelle les term limits aux États-Unis a été très abordé déjà à la fin du 19e siècle, au moment où il y a la mise en place du système des primaires qui va remplacer les anciens caucuses, enfin dans un certain nombre d'États, pas partout. Il y aura aussi l'instauration des procédures de recall, l'instauration des procédures de référendum. Et les termes limites seront très discutés à ce moment-là, mais ne seront pas admis et mis en place à ce moment-là. En revanche, c'est devenu un sujet à la fois de discussion dans la théorie politique et et de préoccupation sociale qui est revenu dans les années 80, comme un des principaux vecteurs des revendications pour une démocratie plus active et une politique moins professionnalisée. Mouvement qui s'est notamment lié au fait que le nombre de renouvellement des mandats est notamment extrêmement élevé au Sénat. Et on peut dire que le Sénat représente, au sens ancien du terme, une assemblée aristocratique, puisque je ne connais pas le chiffre exact, mais disons un pourcentage très important de gens sont des personnes très riches et qui sont réélus pour un nombre de fois relativement important. La deuxième question qu'il faut aborder quand on parle des rythmes politiques, c'est les problèmes posés par la procédure du renouvellement partiel, dont j'ai mentionné qu'elle était en vigueur pour un certain nombre de choses. Le système d'hérédité de la pairie en France, comme celui constituant la Chambre des Lords en Angleterre, avait fait de ces secondes chambres de véritables corps qui avaient leur existence propre. Ce n'était pas simplement les sénateurs, ce n'est pas simplement les lords, c'est une chambre, elles étaient un corps. Et l'hérédité fut abolie de la pairie en 1831 en France, et elle vit plus tard son importance minimisée outre-Manche par la nomination d'un certain nombre de simples pairs à vie. Et des chambres constituées de cette façon apparurent rapidement comme de simples survivances de l'Ancien Régime, à cause d'un certain nombre de pairs nommés à vie. Et au contraire, on voyait au moment du débat de 1831, De Broglie qui se félicitait que l'hérédité soit, je le cite, « l'unique et dernier joyau de notre écrin monarchique. Il est comme un défi et une proie aux appétits populaires. » Mais son ami Guizot reconnaîtra que l'hérédité de la pairie était une question perdue avant d'être discutée parce que la clameur démocratique l'avait repoussée absolument. Et à l'exception de la Grande-Bretagne, ce type de chambre a fait long feu depuis. Mais la volonté de former des corps distingués qui justifiaient leur existence a survécu en partie sous d'autres formes au sein des deuxièmes chambres. Pardon. Il y a d'abord eu dans l'histoire des démocraties l'admission de sénateurs inamovibles, la Troisième République, qui ont réintroduit fonctionnellement une espèce de dimension capacitaire ou aristocratique. En France, on le sait, c'était le résultat d'un compromis sur la conception du nouveau Sénat, conception auquel se plieront les Républicains parce qu'ils ont été satisfaits de placer un nombre élevé des leurs dans ce groupe des inamovibles. Donc ils ont échangé le principe contre les places, comme on dit. Et l'idée de constituer une chambre reposant sur un principe différent, la capacité, de celui légitimant à la Chambre des députés, le nombre, avait finalement été accepté par ces républicains, même si c'est sur la base d'une perspective différente de celle des conservateurs. Dans ce cas français, c'est d'abord la durée du mandat sénatorial, de 9 ans, qui caractérise l'institution. Je rappelle d'ailleurs que dans la fameuse commission des 30, c'est la commission qui a abouti à faire toutes les lois constitutionnelles, puisque ce n'est pas une constitution, les lois constitutionnelles de la Troisième République, avait consacré beaucoup de temps à discuter le Sénat, et c'est là le grand orateur, ce sera Albert de Broglie sur ces questions-là. Et ils avaient à un moment envisagé même le terme de 10 ans pour le mandat des sénateurs. Mais le point le plus remarquable, me semble-t-il, ce n'est pas simplement la longueur des mandats, c'est le système du renouvellement partiel qui a fait du Sénat une institution particulière. Le renouvellement partiel, en effet, n'est pas simplement un arrangement institutionnel. Il correspond à une logique parlementaire bien précise qui s'oppose à celle du renouvellement intégral. Alors que le renouvellement intégral, c'est la Chambre elle-même, pris en corps, qui voit ses pouvoirs expirer. À l'inverse, avec le renouvellement partiel, ce sont des membres individuellement considérés qui cessent d'être représentants de la nation. Et l'Assemblée, quand elle a une durée indéfinie, elle conserve son identité et son unité, contrairement à la Chambre basse, la Chambre des députés, qui est astreinte à la règle des législatures. Ce système du renouvellement a permis la consolidation d'un esprit de corps. et de traditions politiques qui ne peuvent exister dans une Chambre intégralement élue. Ce système, c'est un moyen, pourrait-on dire, de faire du Sénat un organe éternel. Jules Jeanneney, longtemps président de ce Sénat, pourra dire à son propos « C'est un véritable corps vivant, fait pour la durée, qui régénère ou renouvelle ses cellules de 3 ans en 3 ans. » Donc c'est bien un même corps qui renouvelle ses cellules. Ce n'est pas une législature qui change, pour employer l'expression concernant la Chambre des députés. Un corps en outre stable et permanent, puisqu'il n'est pas susceptible d'être dissous comme la Chambre des députés, dans le cas français. Et comme en Angleterre, la Chambre des Lords ne peut pas être dissoute. Et un corps qui modifie aussi complètement les rythmes et les formes du système majoritaire, qui les modifie en évitant d'abord les effets de rupture provoqués par les élections générales, le régime démocratique étant substantiellement défini par ces basculements de majorité, particulièrement marqués au moment de ce qu'on a appelé en sciences politiques les élections de réalignement. Les élections de réalignement, ce sont les élections qui marquent des grands infléchissements généraux de la politique. On dira que l'élection présidentielle de 1981, c'était l'élection de réalignement. C'est-à-dire qu'elle a emporté en son sein, elle a porté à sa suite tout un ensemble d'évolutions qui ont produit des effets généraux. Et ces effets de rupture n'existent pas avec le Sénat. Et elles conduisent aussi cette forme de représentation logée dans un corps à désynchroniser les représentations de l'opinion. Les députés expriment les sentiments populaires immédiats, en tout cas de la dernière élection, alors que les sénateurs, qui sont élus au deuxième degré, ils reflètent les expressions politiques du passé, ceux qui les élisent pouvant être en fin de mandat. Alors qu'il y a donc une désynchronisation du temps de l'opinion et du temps des institutions qui est notablement marquée. Et cette appréciation du Sénat comme corps continuel, continuing body en anglais, elle a fait l'objet de nombreuses discussions aux États-Unis, à partir à peu près de la présidence du président Johnson. Le problème étant de savoir si le Sénat est effectivement un corps permanent de fait, ou, à cause du renouvellement partiel, ce qui implique qu'il doit maintenir des règles de fonctionnement à chaque nouvelle session, un tiers seulement des membres ayant changé, ou si c'est une assemblée nouvelle qui existe à chaque élection. Et à ce moment-là, une assemblée qui peut adopter de nouvelles règles de fonctionnement. C'est une chose très importante au Sénat américain, parce qu'il y avait derrière toute la question du filibustering. C'est-à-dire que si le Sénat, on considère que c'est un nouveau Sénat qui naît à chaque fois qu'il y a une élection partielle, même s'il se renouvelle que partiellement, ça veut dire que si c'est un nouveau Sénat, il peut changer ses règles de fonctionnement. Mais si c'est le corps continuel qui continue, il ne peut pas changer les règles de fonctionnement. Et donc c'était quelque chose de décisif dans l'organisation politique américaine. Et c'est en 1975 qu'un vote du Sénat par 53 voix contre 43 a avalisé la doctrine du corps permanent. Et qui donnait de cette façon aussi sa spécificité au Sénat américain dans le fonctionnement démocratique. Il faut souligner que dans beaucoup d'autres États aussi, les Sénats procèdent du même caractère de corps qu'il y a en France ou aux États-Unis, du fait seulement de sa disposition essentielle, le renouvellement partiel. Autre manifestation des rythmes de la politique, l'élection des présidents de la République. L'élection des souverains a une longue histoire depuis l'Antiquité. Dans le Moyen-Âge français, les termes d'élection ou de disputatio étaient ainsi utilisés pour légitimer le pouvoir royal, y compris lorsqu'il y avait transmission héréditaire. La transmission héréditaire nécessitait tout de même une élection. Mais il s'agissait plus d'un rituel politique que de ce que nous mettons aujourd'hui, bien sûr, sous le terme d'élection, avec la référence à une campagne, compétition organisée, etc. La première séance du séminaire sera d'ailleurs consacrée aux élections à Rome et avec Virginie Hollard qui insistera beaucoup sur la dimension de rituel politique qu'il y avait dans les élections à Rome. Ben, c'était tout à fait ça qu'il y avait à la période que je mentionne. Et l'adjectif démocratique n'avait donc aucun sens. Il était appliqué pour qualifier ces élections qui étaient souvent des acclamations aussi. Il en ira différemment en France avec la Constitution de 1848 qui prévoyait l'élection au suffrage universel du président de la République avec un mandat alors de 4 ans. 1948, alors que les députés, je le rappelle, étaient élus pour 3 ans en 1948. Celui-ci n'étant rééligible qu'après un intervalle de même durée. L'élection de la tête de l'exécutif, confiée à une seule personne, marquait une rupture très forte avec la période révolutionnaire qui avait été hostile à toute forme de pouvoir personnel. En 1792, on peut rappeler qu'il y a eu la proposition d'avoir à la tête de l'exécutif un président de France et que ça a été repoussé très, très largement. Ça avait provoqué un tollé de parler d'un président de France. Pourquoi ? Parce qu'il avait été dit à l'époque que ce n'est pas simplement la royauté qu'il importait d'écarter du système français, mais que c'était, je reprends une expression de l'époque, toute espèce de puissance personnelle. Et d'ailleurs, dans la période révolutionnaire, il sera très important de souligner que beaucoup des exécutifs ont été des exécutifs collégiaux. Le directoire est un exécutif collégial. Les consuls sont un collège de trois. Cette idée de pouvoir collégial était aussi dans les comités de salut public et de sûreté générale. En 1948, cette prévention contre la puissance personnelle avait été levée pour deux raisons. D'abord, le prestige dont jouissaient les institutions américaines à l'époque. L'Amérique, il y avait beaucoup de livres publiés sur l'Amérique, l'Amérique était le nouveau pays émergent, et donc ce qui était bon en Amérique était conçu comme un modèle. Et il y a eu toute une discussion pendant la monarchie de Juillet sur ce qu'on appelait la République conventionnelle, la République américaine. La République conventionnelle, c'est encore la République que l'on voyait avec des accents jacobins, pour faire dire. Alors que la République américaine, c'était la façon de rendre l'idée républicaine, disons, largement majoritaire. Et tout ce débat sur République conventionnelle et République américaine, eh bien, il permet de comprendre la popularité qu'avaient les institutions de ce pays et donc le fait que l'élection d'un président existant aux États-Unis, il était envisagé en France. Et puis le deuxième fait qui a fait aller vers l'élection d'un président de la République, c'est tout simplement le fait que les expériences d'exécutif collégial du directoire du consulat avaient laissé un mauvais souvenir. Donc on est revenu à l'élection. Alors qu'évidemment, après le Second Empire, il écartera pour un siècle l'idée d'élection du président de la République. Mais la question du mandat présidentiel, dans cet intermède entre 1948 et 1958, restera très discutée. Lors de la discussion des lois constitutionnelles établissant la Troisième République, certains avaient envisagé un mandat de 10 ans encore pour le président. Et c'est finalement, vous le savez, un mandat de 7 ans qui sera retenu. Et lorsque la question d'un retour à une élection au suffrage universel sera mise à l'ordre du jour après 1958, les pères fondateurs du régime avaient songé à un mandat beaucoup plus long. Le premier qui a fait l'œuvre constitutionnelle dont allait naître la Constitution de 1958, vous le savez, indépendamment de tous les éléments qui ont été exprimés au moment de la résistance, c'est Michel Debré qui a véritablement joué le rôle essentiel. Et dans un livre qu'il a publié à La Libération, qui avait pour titre « Refaire la France », il suggérait un mandat non renouvelable, je le cite, d'au moins 12 années. Donc un président de la République élu au suffrage universel avec au moins 12 années. Et l'idée d'une monarchie républicaine le séduisait à l'heure. Et en effet, ce chiffre de 12 années, d'où est-ce qu'il le tirait ? Il disait, c'est la durée de vie moyenne des régimes monarchiques en Europe aujourd'hui. Donc les gens arrivaient au pouvoir à 60 ans ou à 55 ans, ils mouraient 12-15 ans après. Donc voilà, c'était une façon de donner ce tempo monarchique. Et certains proches du nouveau régime suggéreront en 1958 le terme de 10 ans. Et c'est la prudence politique qui conduisit à en rester au septennat. Mais il est frappant de voir que c'est véritablement d'autres durées qui avaient été envisagées par les partisans du régime. Et lorsque le quinquennat fut adopté en France par référendum il y a une dizaine d'années, la réforme parut soudain naturelle. Le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, se contenta de dire « La démocratie a besoin pour respirer de mandats d'une longueur raisonnable ». Donc c'était une argumentation théorique limitée. Et l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing notait quant à lui laconiquement C'est une réforme de modernité, c'est presque tout ce qu'il y a à dire sur elle. Donc ça veut dire vraiment que l'on acceptait de penser que vitesse, modernité et démocratie se liaient naturellement, sans que ce lien ait besoin d'être élaboré. À côté des rythmes des institutions, il y a aussi des ruptures de rythme. C'est la question des vétos, la question de la dissolution, la question des élections partielles. Une autre façon d'aborder la question des temporalités est de considérer les procédures qui peuvent en modifier le rythme. Le veto en est la première forme. Il consiste dans la faculté qui est reconnue à une autorité publique, personnifiée le chef de l'État ou collective, une cour de justice, une deuxième chambre par exemple, de s'opposer de façon active ou passive à l'entrée en vigueur ou au maintien d'un texte. Cette idée de veto a généralement été pensée dans le seul cas, notamment aux États-Unis, où il joue l'essentiel que vous connaissez. Il a généralement été pensé dans le cas d'un système de checks and balances. Mais il a aussi une dimension proprement temporelle, parce qu'il oblige une délibération à se prolonger en compliquant un processus de décision. Et c'est pourquoi, au moment de la Révolution française, la grande discussion sur le veto royal, le grand argument des partisans du veto, était de dire que le veto rompt la temporalité de la représentation en étant l'équivalent d'un appel au peuple. C'est le grand thème de défense des partisans du veto, suspensif, en disant « c'est l'équivalent d'un appel au peuple, puisque ça rompt le rythme politique ». Mais c'est la dissolution d'une assemblée qui est la forme la plus répandue de rupture des rythmes institutionnels. Elle est à la fois un pouvoir pour celui qui l'exerce, la dissolution, on parle de dissolution, dissuasion, et peut-être une ressource démocratique pour l'électeur qui est amené à s'exprimer pour trancher de façon prématurée par rapport au calendrier prévu la question de savoir comment a évolué le sentiment majoritaire. Vous voyez que la dissolution, elle est aussi liée à cette idée que les majorités se reforment sans cesse. Et la dissolution, quelles qu'en soient les modalités, qui sont fort variables selon les pays, est toujours une procédure de renforcement du caractère majoritaire de la démocratie. Car c'est affirmer qu'il faut rafraîchir la majorité. Et notamment, c'est très intéressant de préciser cela par rapport aux usages anglais de la dissolution, où il est très fréquent en Angleterre que les élections législatives soient provoquées par le parti au pouvoir un peu avant la fin du terme, et c'est très, très, très général même. C'est aussi sur un mode informel, ce rupture de temporalité des rythmes institutionnels, ce à quoi servent des sondages, lorsqu'ils infirment ou ils confirment l'état de l'opinion à un moment donné, relativement à son expression lors des précédents scrutins. Participe encore à ce système de rupture des rythmes politiques, le mécanisme des élections partielles, ce qu'on appelle les by-elections en Angleterre, qui sont une autre façon d'appréhender l'évolution du sentiment majoritaire. Et c'est la tenue des élections partielles a notamment joué un rôle extraordinairement important dans les tout débuts de la Troisième République pour républicaniser la Chambre des députés. C'est les élections partielles qui régulièrement ont montré ce qu'était la nouvelle majorité et fait monter en puissance, pourrait-on dire, la majorité républicaine. D'où d'ailleurs très souvent les critiques qui ont été émises lorsque disparaissaient les élections partielles. C'est notamment le cas dans un débat important à la fin du XIXe siècle en France avec le scrutin proportionnel. Parce que le scrutin proportionnel, est, comme il y a une liste nationale, si un député, c'est ce qui se passe dans le cadre européen aujourd'hui, si un député démissionne ou décède, eh bien, il est remplacé par le suivant sur la liste. Il n'y a pas de nouvelles élections. Et donc, un des grands reproches qui a été fait aux élections proportionnelles à la fin du XIXe siècle en France, c'est justement de rendre impossible ces élections partielles. C'est aussi ce qui était en débat avec la mesure qui est plus récente en France, qui fait qu'un ministre qui démissionne peut retrouver son mandat sans partiel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça aussi, c'est une affaire de rythme politique. Et on peut dire que, d'une autre façon, c'est aussi des ruptures de temporalité que conduisent les interventions d'une cour constitutionnelle. Parce qu'au-delà de leur dimension classiquement contre-majoritaire, elle modifie le calendrier de l'action gouvernementale ou législative. Et là, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conventions de révision. Et l'idée de quatrième pouvoir, c'est justement d'introduire aussi un dualisme, des formes de dualisme temporel qui expriment des dualismes, des figures de la volonté générale. Considérons maintenant la question, le troisième volet que je voulais explorer avec vous aujourd'hui, c'est celle des temporalités de la démocratie, du point de vue de l'opposition du court terme et du long terme. En notant d'abord que le présentisme démocratique a été au cœur des critiques et des interventions conservatrices. Stigmatisant le mépris du passé et la religion du présent, dont il voyait bien qu'ils devenaient les traits essentiels de la modernité, qui était en train d'émerger, Chateaubriand parlera dans le génie du christianisme comme d'un abominable sacerdoce. Le présentisme démocratique est un abominable sacerdoce. Et le premier Lamennais ira dans le même sens, déplorant que le pouvoir issu du peuple entraîne une mobilité continuelle et, dira-t-il, ignore la puissance du temps. Mais c'est bien sûr plus profondément Tocqueville qui fera de cette question du rapport au temps un des principaux axes interprétatifs de son analyse de la démocratie américaine, d'un point de vue anthropologique aussi bien que d'un point de vue des institutions politiques. En termes anthropologiques, c'est une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, Tocqueville a d'abord fortement souligné le lien qui unissait individualisme et préférence pour le présent. Il s'agit en effet dans les deux cas de ce qu'on pourrait considérer comme une manifestation de détachement. L'individualisme, je cite Tocqueville, dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables, le conduit ainsi à ne rien attendre des autres, à viser à suffire à lui-même, tandis que l'absorption dans le présent met simultanément à distance le passé. Donc c'est le même mécanisme qui crée l'individu et qui crée le présent. Il y a donc là deux façons convergentes de briser la chaîne, selon l'expression de Tocqueville. Ainsi, conclut-il dans ce développement, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais lui cache ses descendants. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Témoigne aussi pour Tocqueville de cette évolution la transformation du rapport à la croyance. Alors, je le cite, que les religions donnaient l'habitude de se comporter en vue de l'avenir et donc de sacrifier le présent à l'avenir, et même plus à une vie d'après la mort, l'âge moderne du doute conduit à l'inverse l'individu à se cantonner à l'immédiat. D'où à ses yeux une psychologie propre à l'homme démocratique, qui l'oriente vers les succès faciles et les jouissances présentes, et le dote, une formule célèbre de Tocqueville, d'une ambition tout à la fois vive et molle. Mais à côté de cette appréhension anthropologique et psychologique, le problème, bien sûr, il est aussi politique pour Tocqueville. Il tient d'abord de façon générique au fait que le peuple souverain est structurellement, pense-t-il, guidé par les passions changeantes et non par la raison qui permet seule de mûrir de véritables desseins. Également du fait de l'instabilité législative et gouvernementale qui résulte, explique-t-il dans son livre, de la volonté d'amener sans cesse des hommes nouveaux au pouvoir, la volonté de voir des têtes nouvelles au pouvoir. Voilà ce qui corrompt, pense-t-il, la démocratie. Ou encore, de l'affaiblissement d'exécutifs qui sont soumis aux humeurs changeantes de l'opinion. Tout cela fragilise pour lui les régimes démocratiques et réduit à ses yeux ce qu'on appellerait dans le langage aujourd'hui leur capacité de gouvernance. Et l'exemple de la politique extérieure était à ses yeux le plus emblématique de cette fragilité. C'est, dit-il, dans la direction des intérêts extérieurs de la société, que les gouvernements démocratiques me paraissent décidément inférieurs aux autres. La politique extérieure, continue-t-il, n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui sont propres à la démocratie et commande, au contraire, le développement de presque toutes celles qui lui manquent. Et de citer la nécessité dans ce domaine, par exemple, de combiner des mesures en secret, d'attendre patiemment des résultats, d'agir de façon continue et de poursuivre obstinément des desseins sur le long terme. Ce topos de la démocratie comme contraire avec la notion de politique étrangère sera essentiel tout au long du XIXe siècle. Ce sera un des grands topoi de critique de la démocratie. Tous les libéraux critiquant le suffrage universel emploieront l'argument, considérant que c'était un instrument d'affaiblissement de la puissance et que si on voulait une diplomatie constituée, il fallait qu'il y ait un corps aristocratique, seul apte à corriger ce biais. D'ailleurs, dans le cas français, dans le cas britannique, il est frappant de voir qu'effectivement, en termes de sociologie de la haute fonction publique, on notera la forte rémanence, encore aujourd'hui, mais beaucoup plus marquée évidemment au XIXe siècle, des personnes d'origine noble dans la diplomatie européenne. Et c'est évidemment pas un hasard, c'était l'application de cette nécessaire conservatoire, si je puis dire, du long terme, qui ne pouvait pas appartenir à des nominations classiques démocratiques. Et cette critique du court-termisme sera au cœur aussi des arguments antidémocratiques des courants royalistes au tournant du XXe siècle. Et c'est justement pour amender ce court-termisme qu'ils mettront en avant, à Ibarès, l'idée du suffrage des morts. Et plus globalement, c'est la superposition de la célébration du présent et de l'avènement de l'individu que ces royalistes voudront combattre en liant l'éloge du long terme et les vertus de la continuité à ce qui était essentiel pour eux, la restauration d'une société organique. On peut dire que la faiblesse sociologique du monde libéral démocratique allait pour eux de pair avec son rapport défaillant au temps. Les deux étaient tout à fait liés. Mais au-delà de ces critiques, c'est à l'intérieur même de la culture démocratique que le présentisme est remis en cause par l'idée d'intérêt général. L'intérêt général est en effet une figure de la généralité qui ne prend sens que dans le double dépassement de la particularité et de l'immédiateté. Dépassement de la particularité avec évidence, intérêt général. Mais dépassement de l'immédiateté aussi, car il implique une dimension de continuité, la constitution d'une forme qui présente un caractère de stabilité. Et la structure de l'intérêt général diffère à cet égard de la structure de la volonté générale. Car si la volonté générale doit aussi dépasser la particularité, avec la difficulté toutefois qu'elle se définit souvent comme la fiction d'une unanimité, dans la mesure où elle ne se manifeste pratiquement que sous les espèces d'une majorité, mais cette volonté générale peut, en revanche, prendre forme dans l'immédiateté. C'était l'horizon du temps révolutionnaire, directement et instantanément créateur d'un nouveau monde. Or, la démocratie ne peut se passer de cette référence à la notion d'intérêt général. Elle ne peut pas être constituée simplement par la notion de volonté générale. Elle ne peut, notion d'intérêt général, qui a donc une dimension substantielle et non pas simplement procédurale. Elle doit en effet être définie comme visant à instaurer un ordre social qui profite au plus grand nombre et pas simplement comme une procédure de légitimation des gouvernants. Mais le problème, c'est qu'avec cette notion d'intérêt général, l'idée démocratique réincorpore par ce biais une partie de ce qu'elle rejette, et ce d'une double façon. Elle réintègre d'abord une vision ancienne du bien commun comme une grandeur indéfinie, comme une grandeur qui tend à la perpétuité. Vision de l'intérêt général qui, dans l'Occident médiéval, a plongé ses racines dans la relecture d'Aristote, et notamment dans le commentaire qu'Albert le Grand a donné de l'éthique à Nicomaque, où il montre que la notion de bien commun y apparaît comme quelque chose de supérieur au bien particulier, parce qu'il est de nature presque divine. Et quand il disait « il est de nature presque divine », il voulait dire par lui que pour lui, ce mot « divin » devait être interprété comme la désignation d'une sorte de continuité de l'espèce. La continuité de l'espèce a ce caractère divin, selon, on pourrait dire, une orientation typiquement naturaliste de la période. C'était donc bien une façon de retourner une conception de type naturaliste qui était aux antipodes de l'artificialisme démocratique. Donc, parler d'intérêt général est anti-artificialiste. Mais l'idée démocratique réintègre aussi, par le biais de cette notion d'intérêt général, la perspective de la mise en place d'institutions à la fois gardiennes et opératrices de la perpétuité, puisqu'une dimension de perpétuité est dans l'intérêt général ou de très long terme. Et c'est la définition et la fonction même de l'État moderne que de se présenter comme l'agent central de cette perpétuité. Et on peut dire même plus qu'il ne faudrait pas définir l'État moderne simplement comme ce qui exerce l'exercice de la violence légitime, mais que comme ce qui exerce le monopole légitime de la perpétuité. Et cette question de définir l'État comme le monopole légitime de l'action en vue de la perpétuité a été un très grand sujet de discussion à partir de Bodin. Et Bodin définissait justement la souveraineté comme une puissance qui était absolue, mais surtout perpétuelle. Donc c'était la dimension de perpétuité qui était très importante, et que cette fonction de perpétuité, bien, elle a évidemment longtemps été incarnée par le principe monarchique, justifiant sur cette base la transmission héréditaire du pouvoir. Et principe monarchique, lui-même ancré dans la prétention à être le serviteur de l'œuvre divine, Dieu se définissant comme l'être radicalement indifférent au temps, un être de perpétuité et de présent continuel en même temps. On peut ainsi dire que le véritable concept de monarchie n'est pas d'ordre constitutionnel. Avant d'être un type de régime, la monarchie s'est appréhendée comme un sacerdoce de l'impartialité et de l'intérêt général, appuyé sur son caractère d'indifférence temporelle. L'État a incorporé cette dimension, qui lui est restée consubstantielle après la disparition de la figure du roi-État. Il ne se conçoit pas, en effet, sans continuité. Même les libéraux en conviendront au XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, le grand livre qui fait référence sur la vision libérale de l'État, c'est le livre de Paul Leroy Beaulieu, « L'État moderne et ses fonctions ». Et Paul Leroy Beaulieu, écrit dans ce livre « L'État est le représentant de la perpétuité sociale et il doit veiller aux conditions générales d'existence de la nation dans le temps ». Et cette tension entre la préférence pour le court terme de la volonté générale et les réquisites du long terme est ainsi constitutive de l'idéal démocratique. On notera qu'elle est au cœur de la réflexion des pères fondateurs de la Troisième République. Littré appelait ainsi à considérer que la République devait se comprendre comme, je le cite, « le régime qui permet au temps de garder sa juste prépondérance ». Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer la réticence des pères fondateurs de la République à employer le mot « démocratie » trop fréquemment. Je citerai la semaine prochaine que dans les proclamations électorales des années 1981, le mot « république » est cité 30 fois plus souvent que le mot « démocratie ». C'est-à-dire qu'il écrase complètement le mot « démocratie ». Et là, vous trouvez une des explications à cet élément de langage sur lequel je reviendrai. Et beaucoup ont cherché alors la voie d'une régulation de cette tension entre volonté générale et intérêt général par la réintroduction d'éléments de type aristocratique, la protection de l'exécutif des soubresauts de l'opinion, par exemple, l'introduction de chambres représentatives qui incarnent la durée. Mais on peut aussi considérer que c'est la célébration des promesses de l'avenir qui procède d'une recherche analogue dans la régulation de cette tension des temporalités. Maurice Auriou, le juriste, le grand théoricien de l'institution, l'a souligné de façon, à mon sens, très suggestive. Il dit « Les sociétés humaines sont avides de durée. Elles l'ont cherché pendant longtemps du côté du passé, s'appuyant désespérément sur la coutume. À la suite d'un revirement prodigieux, les sociétés humaines cherchent maintenant la durée du côté de l'avenir, en s'appuyant sur les virtualités. » Donc je crois qu'il y a ce renversement complet de perspective où la durée n'est pas un héritage, où la durée devient une promesse, pour faire vite, qui est essentiel dans les régimes démocratiques. Résumons donc les choses au point où nous en sommes. La tension des temporalités a plusieurs dimensions. Elle est entre le court terme et le long terme. Elle apparaît certes immédiatement, en tout cas pendant tout le XIXe siècle, comme l'expression d'un conflit politique entre progressistes et conservateurs. Mais elle a aussi une dimension structurelle. Elle exprime, d'abord, un conflit des figures démocratiques et des légitimités. Elle oppose légitimité procédurale, l'auto-institution de la société, le présent, et légitimité substantielle, et c'est la figure de l'administration comme corporatisme de l'intérêt général qui va le représenter. Et donc, c'est la dualité entre gouvernant et administrateur qui va être si centrale dans toute la conception de la Troisième République. C'est un point que j'ai longuement développé dans le livre « Le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme ». Deuxième dimension de cette tension, l'écart qui sépare la notion de décision et de volonté. L'impatience démocratique renvoie au registre des décisions, décisions qui sont le fruit des volontés immédiates et qui sont directement opérantes, alors que la notion de volonté est en fait beaucoup plus complexe que ne le suppose la vision révolutionnaire traditionnelle. Elle est en effet aussi projection de l'être, manifestation de son identité, expression d'un projet. La volonté n'est pas épuisée par une action menée. La volonté n'est pas épuisée par des choix donnés ou des décisions spécifiques. Elle a une dimension structurellement historique. Et c'est pourquoi la confusion des deux registres de la décision et de la volonté est également très importante à prendre en compte. Il y a eu historiquement deux visions classiques du statut et des usages de l'avenir. La première est celle qui était liée à l'invention de la politique moderne, dont Philippe de Comines, puis Machiavel, ont été les premiers théoriciens. En concevant la politique comme une technique de mise en forme du monde, destinée à mettre sus l'adversité, expression de Philippe de Comines, ils ont proposé d'en faire un art de résistance à la fatalité et un exercice de confrontation engagée avec la nécessité. Ces pères fondateurs, je dirais, de la philosophie moderne de la politique, ils ont compris le temps, dans cette perspective, comme une ressource pour la volonté, une disponibilité pour l'action. L'avenir est donc pour eux projection de la volonté. Et s'ils abandonnent les figures du roi magicien et du roi gardien, du droit, de la foi, etc., c'est un roi opérateur qu'ils pensent, un roi modeleur de la réalité. Et c'est ce qu'expliquera le mot d'ordre que donnera Francis Bacon dans sa nouvelle Atlantide, mot d'ordre qui donnera cette ambition de maîtrise du monde, en disant, en écrivant fameusement, « Notre fondation a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses et de receler et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. » Forme et matière de l'idée générique de progrès chez Bacon, l'avenir est là une catégorie qui participe de la diffusion moderne de la politique. Elle est, pourrait-on dire, la profondeur de champ de son concept. Mais il y a une deuxième conception de l'avenir qui le conçoit sous les espèces d'un terme, d'un aboutissement. C'est la vision eschatologique dont l'idée de révolution comme grand soir a constitué la version sécularisée. Il dessine la figure d'un monde radicalement nouveau, sans division sociale, qui aurait par exemple réalisé l'abondance, et monde dans lequel la notion même du politique aurait été dissoute, le gouvernement des hommes ayant cédé la place à une simple administration des choses. Il n'y a pas là à développer ces deux visions du progrès et de la révolution qui sont en voie d'effacement. La question de la place du futur dans les démocraties se pose en effet désormais dans des termes différents. Elle se lie principalement dorénavant à la question de la prise en compte des générations futures et de l'évolution de l'écosystème de la planète Terre. Elle a d'abord une dimension morale et philosophique. Faut-il se préoccuper des générations futures, que nous n'avons pas traitées ici ? Mais elle invite, en revanche, cette nouvelle appréhension de l'avenir à s'intéresser à quatre questions. Une question institutionnelle, comment représenter le futur ? Le futur étant, on l'a dit, la circonscription négligée de la politique représentative moderne. Donc, une première question institutionnelle. Comment représenter le futur ou les personnes qui ne sont pas encore nées, si on veut. Et une question de calcul aussi. Quel est le taux d'actualisation qu'il faut choisir pour établir un juste lien entre le présent et l'avenir ? Je peux renvoyer là aux travaux très intéressants écrits sur ce point par un économiste de l'École d'économie de Paris, qui a beaucoup écrit sur les problèmes de relations monétaires entre générations et sur les problèmes de retraite, c'est-à-dire les questions de lissage dans le temps long de ces questions-là à travers le taux d'actualisation. Mais troisièmement, c'est poser une question politique. Dans quelles conditions les décisions et les règles du présent peuvent légitimement contraindre les décisions du futur? C'est quelque chose de très important. C'est tout en théorie politique, c'est une chose qui n'est pas tellement développée en France, mais très aux États-Unis, c'est tout le débat sur ce qu'on appelle les pre-commitments. C'est-à-dire, dans quelle mesure pense-t-on que l'on peut prendre des décisions aujourd'hui qui sont une liberté pour aujourd'hui et qui seront une contrainte pour demain. C'est notamment quelque chose qui était tout à fait discuté de façon très pratique et très intéressante un peu partout à travers les problèmes de gestion des déchets nucléaires. Et dans la théorie politique américaine, ça a aussi été traité à travers tout le problème des pré-contraintes constitutionnelles. C'est un problème aussi qui a été traité, je dirais, dans les études sur la rationalité et la psychologie. C'est notamment tout le travail, une grande partie du travail de Jon Elster, pour montrer pourquoi la volonté pouvait désirer s'autocontraindre. C'est l'exemple fameux qu'il donne de Ulysse et les sirènes. Ulysse sait que s'il entend le chant des sirènes, il va être attiré, et donc il prend la décision de s'attacher au mât. Donc il prend une décision de restreindre sa capacité d'action. Il restreint volontairement sa volonté. Et pourquoi il restreint volontairement sa volonté? C'est parce que, justement, il a une vision de la temporalité de cette volonté et des effets qu'elle peut produire. Donc c'est cette vision de la temporalité qui introduit cet acte de se lier au mât comme un acte rationnel. D'ailleurs, on peut dire que beaucoup des théories de la rationalité, actuellement, sont des théories qui réfléchissent la rationalité du point de vue, justement, des systèmes d'organisation des rapports au temps. Est-ce qu'il est rationnel de sacrifier le présent à l'avenir? Est-ce qu'il est rationnel d'espérer des biens pour des choses dont on se prive aujourd'hui? Il y a énormément d'études de psychologie sur ces questions-là. Et le quatrième facteur, et la quatrième question, elle est d'ordre sociologique, c'est qui sont les générations futures et qu'est-ce que l'humanité? L'humanité étant, je dirais, à partir de la façon dont Auguste Comte l'a définie, c'est-à-dire la somme de tous ceux qui ont vécu et la somme de tous ceux qui vivront, définit un sujet dont il faut évaluer si c'est véritablement un sujet politique. Est-ce que c'est un sujet politique ou est-ce que c'est un sujet, pourrait-on dire, qui fait retourner justement à une vision comme celle qu'avait Albert Legrand, que j'ai citée tout à l'heure, d'une substance existant en tant que telle dans la continuité. Je ne développe pas ces quatre questions essentielles aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux qui tournent autour d'elles. J'espère y revenir un jour. Ce sont des questions très, très importantes. Mais je voudrais terminer en disant que toutes ces analyses sur les temporalités de la politique manqueraient leur objet si on ne rappelait pas que le champ de la politique est structurellement constitué dans un ordre social historique et que le temps est à la fois un élément constituant du sujet démocratique, le peuple comme les individus, et de l'objet du politique, la construction de la volonté générale. C'est en effet pour cela qu'une démocratie immédiate est structurellement impossible. J'aime citer cette phrase de Renan où il dit « Le gouvernement direct, immédiat, et l'État ou la volonté générale ne serait plus que le caprice de chacun. » L'auteur de la réforme intellectuelle et morale, c'est dans son ouvrage « La monarchie constitutionnelle en France » qu'il a cette formule, montre bien qu'il y a une limite logique à une certaine conception du règne de la souveraineté du peuple comme pur présent. Cette limite du pur présent, c'est parce qu'il y aurait mécaniquement, non pas parce qu'il y aurait mécaniquement une impossibilité à l'organiser. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer une discussion, une démocratie immédiate où chacun serait devant son ordinateur le soir pendant une demi-heure et où il aurait 150 questions auxquelles il devrait dire pouce levé, pouce baissé ou changement. Mais l'impossibilité, elle n'est pas technique. L'impossibilité, c'est parce que justement la démocratie, enfin la politique, même en général, a pour but de produire de la permanence. Elle a pour but de produire des effets. Or, si la volonté générale change à chaque instant, elle finit par se détruire. Elle se dissout en se segmentant en permanence. Elle ne peut plus exister comme volonté, elle n'existe plus comme addition de décision. C'est là où on voit bien comment le pur régime de l'immédiateté ne peut pas être un régime de la volonté, mais n'est qu'un régime de l'addition de décision, addition de décision qui peuvent en outre bien être contradictoires. Et c'est l'examen de ce paradoxe logique de l'immédiateté qui suggère et qui renforce l'idée que la démocratie ne peut vraiment prendre forme que comme construction d'une histoire. Et qu'on peut donc se contenter ni d'une définition procédurale, les mécanismes de décision et de légitimation, ni d'une approche essentialiste, qui prend en compte la qualité du pouvoir et de ses représentants, mais qu'elle est, la démocratie, une fonction du temps. Et on peut dire que cette qualification, qui est dérivée du constat de l'impossibilité logique de l'immédiateté, il est corroboré sociologiquement. C'est que le peuple est lui-même sujet collectif. Il est figure du temps, de même que l'individu est sujet du temps. Il est construction d'une histoire, il est projection de l'être dans le temps. Et la démocratie, pour cela, n'est pas seulement le système qui permet à une collectivité de se gouverner elle-même, elle est aussi le régime dans lequel se construit une histoire commune. La mémoire et la détermination d'un projet commun sont, dans cette mesure, des variables clés de la démocratie. Elle articule les temporalités de la volonté, noue la liberté et l'identité, et dissocie la reconnaissance positive de la tradition de ce qui serait son enfermement en elle. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les temporalités de la démocratie, mais voilà l'état de ma réflexion actuelle.